C'est l'état d'urgence.
Résistance ! Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.
Il y a quand même beaucoup d'interdictions de manifestations, hein ?
L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République.
La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants.
C'est l'état d'urgence.
Et voilà, et oui, c'est encore et toujours l'état d'urgence, et c'est le front du lundi, comme tous les lundis, tant qu'on vit dans ce monde. 234e jour de l'état d'urgence, la militarisation de la société se poursuit sans coup férir. Y aura-t-il un nouveau prétexte pour prolonger cet état d'urgence au-delà du 26 juillet ? Mystère, mystère. En attendant, les chefs de poste CRS sur les plages auront un petit 9 mm pour résister aux dangereux individus qui pourraient venir canarder les plages. On espère que ceux-ci, ces dangereux individus, auront la décence de venir armés d'armes courtes, sinon la bataille sera inégale. Les policiers en général seront armés, même au repos, au-delà de l'état d'urgence. Là encore, belle esbroufe monumentale, puisqu'il l'était déjà, et ça n'a pas empêché deux agents d'être abattus. La course à la sécurité armée est une esbroufe coûteuse, parce que bien sûr, dans cette guerre, encore une fois, ce sont nos pommes qui vont morfler. Le Monde relate, il y a trois jours, une des nombreuses perquisitions qui laisse encore des traces dans les corps et dans les têtes. C'est à Nice où les policiers du raid se sont trompés et ont canardé la mauvaise porte. Oups ! Le Monde raconte. Dès qu'elle rentre dans sa chambre d'enfant, Lydia y revoit le champ de bataille. Les hommes en noir cagoulés, d'abord pris pour des cambrioleurs qui les braquaient un par un. Papa allongé au pied de leur lit, menotté avec du cerflex. Atem, 11 ans, à plat ventre à côté de lui. Il y avait aussi des rayons bleus, des lasers aveuglants, les cris et les pleurs de maman dans le couloir avec Cyrina. Et surtout, le sang de leur sœur Lémis, qui ont eu si peur de perdre sous leurs yeux. Ils entendent encore ces hurlements quand un policier l'a sorti pour l'emmener à l'hôpital. Lémis a cru qu'on l'enlevait. Seul Kenzo, 5 ans, le plus petit, n'a pas bien compris ce qu'il se passait. Une scène de fou qui aura duré 45 minutes avant que les policiers reconnaissent leur méprise et présentent à la famille leurs plus plates excuses. Ça doit être beau ce moment-là où ils présentent leurs plus plates excuses. Donc évidemment, c'était la mauvaise adresse. Alors là, on peut s'excuser, mais on peut se dire qu'est-ce que c'était les bonnes adresses. On l'a vu, hein, 10%, même pas 10%, 1% des perquisitions ont donné lieu à des poursuites. C'était donc bien qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, pas grand-chose à dire sur les personnes qui ont été perquisitionnées. Et donc ces perquisitions, c'était comme ça, c'était des enfants de 5 ans couchés à plat ventre, des pères menottés devant les enfants, etc., etc. Donc combien sont-elles ces familles qui se rappellent encore une perquisition, une arrestation ? L'état d'urgence finalement n'a fait qu'accentuer un agir policier qui sous des prétextes divers casse des portes, casse la gueule, casse des vies. 234e jour de l'état d'urgence. Si tout va bien, il ne restera qu'un peu plus qu'une quinzaine de jours pour le retour à la normale. Mais pas sûr que cette normalité nous convienne.
Topine.
3, 4. Tous les garçons et les filles de la ZAD savent bien ce que c'est d'être heureux. Tous les garçons et les filles de la ZAD n'ont pas de chef, les chanceux. Et les bottes aux pieds, ils se foutent des arrêtés. Pendant que moi, je fais le piqué, au carrefour, je me fais chier. Oui, mais moi, le chef me dit, contrôle-les, fouille-les. Oui, mais moi, j'ai trop froid. J'sais même pas ce que je fous là. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, pleins d'angoisse et d'ennuis. J'vais recevoir des bouteilles. Tous les garçons et les filles de la ZAD font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de la ZAD, je le sens bien, ne sont pas prêts de partir. Le marteau à la main et les regards au loin, ils construisent un lendemain peut-être plus humain. Oui, mais moi, chef me dit, matraclé, gazelé. Oui, mais moi, planté là, je trouve pas sens à tout ça. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, plein d'angoisse et d'ennui. Je vais recevoir des cocktails comme les garçons et les filles de la ZAD, je connais très bientôt cette liberté. Comme les garçons et les filles de la ZAD, je m'en vais déserté, plus de chef, plus de préfet, pour dicter ma pensée, je peux dire haut et fort, non à l'aéroport. Moi maintenant, je milite, je manifeste, je conteste, on me dit kiste, anarchiste, terroriste, voire gauchiste. Ne les écoutez pas, je suis juste un zadiste.
Et voilà, retour sur Notre-Dame-des-Landes. Bonjour Gérald.
Salut Rico.
Tu nous entends bien ?
Oui, très bien.
Voilà, alors on en avait parlé la semaine dernière avec une personne qui était sur la zone à défendre. Il y a eu donc dimanche en 8, une consultation démocratique où on a demandé à l'ensemble de la Loire-Atlantique de s'exprimer oui ou non, vous êtes pour ou contre le déplacement de l'aéroport. Donc tout le monde sait aujourd'hui que c'est le oui qui a gagné, donc la démocratie a donné de la voix. Voilà, on t'a eu souvent pour nous raconter comment était la lutte contre cet aéroport dont tu fais partie des opposants. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, en gros, c'est quoi le résultat au sein de la contestation de cette mascarade démocratique ?
Le résultat, il faut déjà donner les bases, les quelques chiffres, quoi. C'est-à-dire que d'une part, il y a eu 51% de participation, ce qui est beaucoup, pour une consultation comme ça, hors grand suffrage, quoi. Et sur ces 51 de participation de gens inscrits sur les listes, on connaît le chiffre, 55% qui ont voté oui. Donc ce qui fait qu'en fait, en tenant compte des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, sur la population de gens qui sont en âge de voter, c'est à peine un quart de la population de Loire-Atlantique qui a voté oui. Donc ça, c'est une première chose. Donc il ne faudrait pas quand même que les pro-aéroports se satisfassent trop vite de ce résultat. D'autre part, le résultat il est très contrasté, parce que les pro-aéroports, ils ont fait essentiellement une campagne contre la ZAD, hein. Ils avaient tellement peu d'arguments que c'était avant tout voter contre la ZAD. Voter pour l'aéroport, c'est voter contre la ZAD. Et on s'aperçoit que les 10 communes qui sont autour de la ZAD, c'est-à-dire les populations qui sont le plus en contact avec les zadistes, ont voté contre l'aéroport, contre le projet de transfert ou contre le projet d'un nouvel aéroport, quoi. Donc ça invalide sérieusement le discours qui est tenu sur les zadistes égale terroristes, hein, ou zadistes égale... je sais pas quoi, nuisible. Et en plus de ça, les populations ont voté contre l'avis de leur maire pour 6 communes, je crois. 6 communes sur 10.
Ouais, quand même.
Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça prouve que la communication entre zadistes, paysans et habitants, elle s'est nettement améliorée, quoi.
Et du coup, ce camp du oui, ça m'interroge un petit peu. Ce camp du oui, est-ce que c'est vraiment un camp du oui ou c'est plutôt un espèce de front hétéroclite de on est pour le progrès, on est pour l'emploi, on est contre les zadistes, etc. Est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'on a une idée un peu de c'est qui est pour ce déplacement de l'aéroport et, est-ce que c'est la clientèle socialiste habituelle ou...
Alors, quand on regarde la carte des résultats, on s'aperçoit d'une part que le Nord-Loire, là où doit aller être transféré l'aéroport, le Nord-Loire a plutôt voté pour. Et le Sud-Loire, là où est l'aéroport actuel, a plutôt voté contre le transfert. Donc déjà, c'est plutôt une situation de d'être proche ou éloigné quoi, hein, du futur aéroport quoi. Je pense qu'il y a aussi une partie des salariés de la zone aéroportuaire de Nantes qui votent contre le transfert, par exemple, hein, sur des communes comme Le Pèlerin, Bouguenay, Rezé. À part Saint-Aignan-de-Grandlieu, qui est juste dans l'alignement des pistes et qui est coincé entre le lac de Grandlieu et les pistes. Bon, là, c'est une petite commune qui est complètement bloquée, quoi. Et donc, les gens, effectivement, ils chopent les avions juste au-dessus de leur tête, mais ça représente 700 personnes, 800 personnes, je crois. Donc, ça, c'est la proximité qui a été un facteur de vote. Et la deuxième facteur qui semble assez crédible, c'est l'emploi. Ne parlons pas de progrès, hein, parlons de l'emploi, puisque c'est surtout la zone nord et nord-est du département, autour de Châteaubriant, qui a voté pour le projet, en espérant que cela ouvrirait des perspectives d'embauche. Il faut quand même noter que les boîtes de BTP par là-bas ont été très très actives. Elles ont même organisé leurs employés pour venir manifester ou pour faire des actions anti-zadistes.
Ah ouais, carrément.
Donc c'est ce secteur-là hein, qui a voté essentiellement pour, au-dessus de 65%, quoi. Et voilà à peu près ce qu'on peut dire. Après, il y a un autre truc intéressant, c'est la métropole nantaise. La métropole nantaise qui représente quand même, que je dise pas de bêtises, c'est 700 000 habitants sur une population départementale de 970 000 environ. Mmh. Donc c'est un enjeu essentiel. Et là, on s'aperçoit que, bien que la gauche domine la métropole, hein, et la gauche et la droite, enfin les partis de gouvernement, on dira comme ça, enfin, pour dire facilement, c'est LR et puis PS, ils ont appelé à voter pour le transfert, eh bien le résultat est beaucoup plus partagé. Par exemple, à Nantes, on a 49 300 pour le transfert et 49 200. Il y a 100 voix de différence entre les pour et les contre. Mmh. Ce qui veut dire que, contrairement au discours du PS et notamment le président du conseil, l'ancien président du conseil régional, qui disait que les anti-aéroports c'était des passéistes, ils vivaient dans des huttes avec des arcs et des flèches, tout ça. Et ben, c'est justement la population QSP+, en termes de classe sociale, quoi, qui est la plus critique par rapport au discours pour l'aéroport, et notamment en centre-ville, qui a voté, malgré les injonctions des partis, qui a voté contre le transfert, quoi.
Ouais, on a l'impression qu'on a encore un référendum où les partis ont finalement peu d'influence, quoi, dans cette affaire.
C'est-à-dire qu'il y a il y a vraiment le divorce dont on parle régulièrement entre les élites, les élus, et puis la population, là, il s'est encore creusé, quoi. Hein. Notamment dans certaines communes comme Rezé, Bouguenay, qui sont, alors pour les gens qui connaissent pas Nantes, c'est au sud-ouest de Nantes, c'est juste à côté de l'aéroport. Hein. Bouguenay, c'est la commune là où est situé l'actuel aéroport, quoi. Et ces communes-là, qui votent traditionnellement très à gauche, hein. Rezé, c'est PS depuis 1959.
Ouais, quand même.
Bon. Et donc, ils ont les nuisances, puisqu'ils sont survolés. Ils ont les risques, puisqu'ils sont survolés. Etc., quoi. Bon. Et ben, ces communes-là, elles n'ont pas suivi du tout l'avis du PS, quoi. Hein, et puis la campagne qui a été faite, qui a quand même été assez écrasante, quoi. Et elles ont voté contre, ou alors juste à 50,5% pour le transfert, quoi. Hein, Rezé, notamment, quoi. Et j'ai une anecdote à raconter, c'est que il y avait une liste alternative aux dernières municipales et le leader de cette liste-là, je l'ai rencontré, il était au dépouillement et il a croisé, il était présent au moment du résultat et où il y avait le maire PS qui était là. Et quand il a appris le résultat de sa municipalité, quoi, à 50,5% je crois, il a dit « Ah oui, là il faut qu'on réfléchisse là ». Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais rien que de voir ces gens qui sont pleins de suffisance, d'arrogance, de mépris par rapport aux gens lambda, quoi, reconnaître qu'à un moment donné, ça risque de leur péter au nez, Hein, alors que, bon, ils portent à bout de bras le projet d'aéroport depuis 2001. C'est le PS hein, qui est essentiellement actif là-dedans, hein, derrière Hérault, quoi. Bon, on sent qu'ils commencent à hésiter. Et surtout, là, il y a eu un truc qui s'est passé ce week-end. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je ne sais pas si les auditeurs en ont entendu parler. C'est l'annulation de l'université d'été du PS à Nantes.
Ouais, ouais, on a vu ça, ouais.
Alors, dans les journaux, c'est intéressant. Là, la presse locale, Ouest-France et Presse Océan, c'est la maire de Nantes qui a sonné l'alarme et qui a intervenu plusieurs fois auprès du Premier ministre et auprès du ministre de l'Intérieur, du préfet. Et c'est eux qui auraient demandé à Corvus Delis d'annuler le truc, quoi.
La belle alliance populaire, hein, ça s'appelle.
La belle alliance populaire, qui a été lancée vendredi et qui a fait un bide.
Bah oui, non mais...
À Paris, ça fait un bide.
Non mais après, et où la gauche, la BAP. Non mais il faut qu'ils arrêtent, quoi.
Et en plus, comment dire, ce qui est croustillant, c'est que, bon, justement, c'était l'université de la BAP, avec le PS, les écologistes indépendants, c'est-à-dire tous les renégats qui salivent pour avoir un portefeuille de ministre, et puis les associations. Et en fait, ça se voulait un symbole de refondation d'une assise large pour les prochaines présidentielles, quoi. Et alors, il y avait 2000 congressistes qui étaient attendus. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu rester tous pendant 3 jours au Palais des Congrès, quoi. Ils étaient obligés d'aller en ville, quoi.
Ouais.
Et donc, ça aurait foutu un merdier terrible, quoi. On aurait vu des groupes de congressistes PS se promener en ville. Alors là, en termes de cible, c'était vraiment du non-non. Donc, ils ont eu peur, là.
Ouais.
Et ça prouve quand même que leur morgue commence un peu à être battue en brèche, quoi. Bon, je pense que c'est la loi El Khomri aussi, pendant 4 mois qu'ils rentrent dedans. À la fin, ils commencent tout le monde commence à crier au suicide politique, hein. Mais là... Là, cette anecdote de l'université d'été, quoi, c'est quand même quelque chose, quoi.
Mais du coup, parce que j'ai l'impression que quand même cette opération, c'était aussi de faire vaciller le camp du non, on va dire, qui là, par contre, on dirait que malgré les diversités de points de vue et d'optique et de tactique, on va dire, reste bien soudé, quoi.
Ah ben, plus que jamais. J'ai assisté à la dernière Assemblée Générale à la Vacherie, où il y avait 300 personnes, à peu près. Et pour la première fois, hein, le rassemblement d'été qui est organisé par la CIPA et la coordination anti-aéroport, pour la première fois, les débats seront préparés en commun entre la coordination, les paysans du copain et les zadistes. Ça veut dire que... Alors avant, bon, c'était toujours... les gens se côtoyaient, quoi. Hein, je ne sais pas si... Il y a certains auditeurs qui sont allés il y a 2 ans, quand il y avait encore des débats, parce que l'année dernière, c'était assez light comme version. Mais il y a 2 ans, il y avait des débats, notamment à la ferme de Bellevue, qui était à 200 mètres du lieu de rassemblement central, quoi. Hein, et des chapiteaux où les débats se tenaient, quoi.
Ouais, et puis sans parler de avant l'opération César, où il y avait quelques prises de parole de zadistes, où c'était plus compliqué, quoi. C'était vraiment...
Exactement.
C'est morcelé,
exactement,
quoi.
Et ben là, ça va se faire en commun. Donc, d'ailleurs, c'est un bilan que font les zadistes, c'est que le premier résultat du premier référendum, c'est d'avoir soudé les différentes composantes de la lutte.
Ouais, et puis j'ai l'impression que aussi ce qui se passe, parce que alors même je te disais tout à l'heure au téléphone, moi j'ai entendu Noël Mamère parler de ah bah ouais, mais bon, d'accord, il y a eu le vote, mais il va falloir expulser les habitants et c'est pas facile, donc avec un espèce de truc, un appel à la barricade, donc par ce député vert, hein, donc on l'attend sur les barricades avec sa cagoule et ses petites moufles pour rejeter les lacrymos, hein. Mais on sent que tout le monde compte sur cette occupation, sur l'occupation pérenne de la zone à défendre pour tenir contre le projet, quoi. C'est devenu presque l'arme commune, quoi. Moi j'ai eu cette impression-là en entendant les déclarations.
Mais en plus de ça, cette impression, elle est renforcée par le fait que les écologistes entre guillemets présentables, comme les Hulot, les De Rugy, etc., quoi, ils ont baissé les bras en disant « Ah, ben, alors, c'est dommage que le oui ait gagné, mais bon, on ne peut rien faire, quoi. Hein. » Quelque part, il y avait une sorte d'abandon, quoi. Et pour les gens, pour les anti-aéroports qui étaient très, très légalistes et tout ça, notamment ceux qui font partie du 7PA, c'est une douche froide, quoi. Parce que ça confirme ce qui s'est passé en 2012. C'est qu'il n'y a que la résistance de terrain qui peut éventuellement bloquer le truc, quoi. Parce que les démarches légalistes et... pour essayer de faire des pôles et s'exprimer dans les médias sur dans un cadre de démocratie parlementaire, et ça marche pas, quoi. Les gens qui comptent se faire des carrières, ils se dégonflent et puis voilà, quoi. Ils reculent, quoi.
Ouais, ça recule de toutes parts. Donc la suite, elle va être sur le terrain, j'ai l'impression. On dirait que c'était que le gouvernement finalement a fait ça et de manière assez d'ailleurs. Il faut souligner que ce petit découpage, ce petit tripatouillage a été parfaitement assumé partout. Que c'était découpé pour le oui, etc. C'était assez fou, même dans le Figaro, on pouvait lire ça. J'ai l'impression que c'est juste pour faire vivre toujours que oui, on va faire un aéroport un jour, mais qu'on se demande s'ils y croient encore pour de vrai.
Ça peut déraper dans tous les sens. C'est extrêmement... On est quand même... Bon, ça y est, là, on est dans la campagne présidentielle. On sait comment Hollande a essayé de verrouiller la gauche avec ses primaires au PS mi-janvier, quoi. Et en plus de ça, Valls a dit une chose intéressante, c'est que il s'engageait à commencer les travaux dans le respect des règlements européens. Or, il y a une chose qui bloque en ce moment. L'Europe demande à la France, à l'État français, des comptes par rapport au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, parce que l'Europe accuse l'État français d'avoir saucissonné le projet, c'est-à-dire d'avoir seulement mis en avant l'aéroport et sa desserte routière, quoi. Alors qu'en fait, autour de ça, il faut rajouter la ligne de tram Nantes-aéroport, il faut rajouter la ligne de TGV Nantes-Rennes avec un arrêt à l'aéroport, il faut rajouter les zones industrielles, il faut rajouter la voirie, une grosse voirie, quoi, qui va être mise en place autour de l'aéroport. Et en fait, effectivement, là, on est plutôt autour de 2 ou 3 milliards que d'un budget de 590 millions que Vinci assumerait en partie. Et donc ça, c'est cette exigence de l'Europe. L'Europe demande ça avant tout début de travaux. Et ils vont, le PS de Loire-Atlantique essaie d'y répondre en proposant un SCOT. C'est un schéma d'orientation territoriale de l'estuaire, quoi, c'est-à-dire entre Nantes et Saint-Nazaire, et qui prévoit les grandes lignes des futures routes, des logements, etc., et qui intégrerait le projet d'aéroport là-dedans avec tous ces moyens de transport, quoi. Et le SCOT, il peut pas être finalisé et signé avant mi-décembre. Ça veut dire que, avant que l'Europe donne son feu vert, normalement, il faut qu'elle ait le SCOT, et éventuellement, elle peut donner son feu vert courant janvier, quoi. Ouais. Et donc, les travaux commenceraient seulement après. Et là, on arrive à 3 mois des présidentielles, c'est cuit.
Après, peut-être ça va ajouter de l'eau au moulin, hein. Je sais pas si t'as entendu, mais le barrage de Sivens, ça a été déclaré illégal.
Un précédent barrage.
Le barrage de Sivens, pour un peu, c'était la déclaration d'utilité publique du 2 octobre 2013 a finalement été déclarée illégale. Elle respectait pas les réserves des commissaires enquêteurs qui avaient donné l'avis favorable. C'est-à-dire que voilà, le barrage de Sivens, après tout ce merdier, ces expulsions, etc., est déclaré encore une fois inutile, destructeur et surdimensionné. Donc on peut prévoir aussi pour l'aéroport à la fois une espèce de bataille entière là où ça risque d'être difficile à faire. En tout cas, on te remercie pour cet éclairage général. Et puis on reviendra un peu plus tard, parce qu'il y aura encore des rebondissements dans cette affaire.
Oui, parce que, par exemple, il y a des personnes qui disaient que ça dérangerait pas finalement le pouvoir qu'il y ait un gros dawa autour de l'université d'été à Nantes sur lequel le pouvoir pourrait accuser les zadistes d'être vraiment une zone de non-droit et donc légitimer une intervention rapide courant septembre-octobre. Mais bon, apparemment, ils préfèrent lâcher le morceau, quoi, parce que le contre-coup politique en termes d'image de la BAP risque vraiment d'être trop négatif.
Ouais, et puis il va falloir qu'ils fassent un peu mettre au repos les forces de l'ordre, là, je pense que quand même... Ouais. Ça commence à tirer sérieux dans les casernes.
Bah, écoute, on verra bien. Hein. S'ils continuent à faire des conneries, on continuera à descendre dans la rue. Hein.
C'est clair.
Allez, salut.
Allez, salut, merci. Ciao.
Ciao.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courbe à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduit au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'applicaillent, et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants.
Allez, il y a 80 ans, il était possible d'espérer ça. Patrons et gouvernants, allez hop, dehors, c'était l'Espagne, c'était 36. Depuis 1931, l'Espagne était une république. Mais en février 36, un front populaire est élu. Très vite, la bourgeoisie va s'organiser pour écraser ce front populaire. Les ouvriers et ouvrières vont répondre en agrandissant la révolution aux grandes dames de la bourgeoisie dite progressiste qui voulaient bien faire la guerre, mais pas la révolution. Il va alors y avoir une lutte interne entre les forces de la République qui veulent vaincre les militaires factieux sans faire advenir une société nouvelle et ceux et celles qui veulent vaincre par la révolution sociale. Et oui, l'Espagne 36, gros gros merdier, gros bordel. Et pourtant, cette histoire de ce moment est cruciale pour ceux et celles qui ont à cœur un monde nouveau, défait de l'exploitation et des dominations. Parce que c'est l'une des plus avancées révolutions sociales de masse où les anarchistes ont eu une influence primordiale, détruisant dans le même geste les classes et l'État, en contradiction complète avec ce qui était déjà devenu la révolution russe, un capitalisme d'État où le pouvoir était confisqué par une bureaucratie rouge. Aussi parce que c'était juste avant que le monde soit mis à feu et à sang par les fascismes. Souvent on parle de la guerre d'Espagne comme une répétition générale de la boucherie qu'allait suivre. Il faut jamais oublier comment la France, du front populaire, celle des congés payés et des avancées sociales, a non seulement laissé crever la République espagnole et la Révolution, et d'autre part, parqué dans des camps ceux et celles qui furent contraints de traverser la frontière. Ben cet été, vu que ça fait 80 ans, on vous propose de vous raconter une partie de cette histoire complexe, un témoignage sensible, celui d'Antoine Jiménez, de son vrai nom Bruno Salvadori, l'un des acteurs de cette révolution, un internationaliste anarchiste, l'un de ceux et de celles qui sont venus rejoindre la révolution pour écraser le fascisme. Ce feuilleton radiophonique est issu du livre des Fils de la Nuit, Les Fils de la Nuit, souvenirs de la guerre d'Espagne. Il a été réalisé par les éditeurs et éditrices du manuscrit. Ces souvenirs de la guerre d'Espagne, donc rédigés par Antoine Jiménez ou Bruno Salvadori entre 1974 et 1976, ce sont des souvenirs, des moments, pas un cours sur l'histoire de cette révolution et de cette guerre. Pour cela, on ne peut que vous conseiller de vous plonger dans l'abondante littérature existante sur le sujet. Voilà, ça va nous accompagner tout l'été, vous accompagner tout l'été. On va passer deux épisodes par jour, par semaine, pardon, deux épisodes par semaine à la suite. Et voilà, c'est une plongée dans la guerre d'Espagne. On sera encore là la semaine prochaine. En tout cas, pour l'instant, on part 80 ans en arrière avec Antoine Jiménez et on parle de la guerre d'Espagne.